Bonjour, parlons aujourd'hui de la politique du logement. Comme beaucoup d'autres sujets économiques, la question du logement est la grande absente de la campagne pour l'élection présidentielle. Alors bien sûr, chaque candidat aborde le sujet, mais avec des arguments qui se limitent généralement à des incantations sans programme précis, planifiable sur le long terme. Le cercle des économistes vient d'entamer l'opération. Relançons le débat économique. Plus loin que la présidentielle, 30 contributions provenant de divers horizons. Et personnalités éclaireront le débat au cours des prochaines semaines jusqu'aux élections législatives avec une conclusion lors des rencontres économiques d'Aix-en-Provence début juillet. Nous en parlons aujourd'hui avec Erwan Tison, directeur des études de l'Institut Sapiens, qui, dans le cadre de cette opération, publie une note intitulée « Les 5 dysfonctionnements à corriger sur le marché du logement ». Bonjour Erwan Tison.
Bonjour.
Expliquez-nous en quoi une bonne politique du logement est primordiale dans la société, indépendamment du fait évidemment que chacune et chacun se doit d'avoir un toit pour dormir.
Tout simplement parce que le logement en fait est au cœur des préoccupations des Français, mais de manière indirecte. Quand on regarde, le logement apparaît qu'à la 10e, 15e place des préoccupations directes des Français, mais quand on regarde leurs autres préoccupations, on voit que le logement y est intimement lié. Tout d'abord, il y a le pouvoir d'achat. Le logement absorbe 22% du budget des Français, c'est quand même 6 points de plus qu'au début des années 2000, et représente aujourd'hui près de 70% des dépenses non pilotables. À cet enjeu de pouvoir d'achat, on pourrait ajouter un enjeu d'aménagement du territoire, où on voit effectivement que c'est difficile de pouvoir se loger de manière très éloignée de son lieu d'activité. Donc du coup, on a besoin de faire mieux coïncider à la fois les logements avec les zones de travail et d'activité. Ensuite, il y a un enjeu de finances publiques. Le logement, ça représente tout de même 42 milliards d'euros de recettes nettes par an pour l'État. Et enfin, un enjeu d'écologie, le logement émettant près de 25% des émissions de CO2 au niveau national.
Alors, les 5 dysfonctionnements dont vous parlez, quels sont-ils? Alors, malheureusement, on ne peut pas être exhaustif, hein, mais si on appuie sur les principaux curseurs à vos yeux.
Tout d'abord, il y a principalement un vrai problème de pouvoir d'achat lié au logement. Le pouvoir d'achat est vraiment amputé et vraiment abîmé par la politique du logement. Il y a une inflation extrêmement forte, 4 fois supérieure à l'inflation des prix et même au gain du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est le premier dysfonctionnement. Deuxième dysfonctionnement, c'est qu'on a une vraie inégalité dans la répartition de l'offre de logement sur le territoire, avec des zones qui sont surdotées, des zones qui sont vraiment sous-dotées en logement par rapport à la demande qui s'exprime. Ensuite, il y a vraiment un problème lié au logement social, qui, quand on regarde les chiffres, est de moins en moins accessible aux profils les plus défavorisés. Donc, du coup, ce logement social-là ne remplit plus sa mission première d'amortisseur social. Enfin, j'ai envie de dire, il y a encore deux autres inégalités qui s'expriment, principalement une inégalité de patrimoine, où on voit qu'en fait, malheureusement, le logement n'est pas réparti de manière très égale au sein de la population française. Le taux d'accès à la propriété diffère largement et de plus en plus selon les catégories professionnelles, mais aussi selon les catégories d'âge. Et dernier dysfonctionnement, c'est lié notamment à cette problématique écologique, où on voit que le logement, effectivement, est très, très gourmand en carbone, et énormément en carbone, mais malheureusement, les mesures qui sont prises, soit vont pas forcément dans le bon sens, soit si elles vont dans le bon sens, ne sont pas sur des temporalités que peut absorber le marché et le secteur des producteurs.
Erwan Tison, approfondissons au moins deux ou trois idées. Vous le disiez, le logement, ce sont aussi les territoires. En quoi l'équation actuelle n'est pas satisfaisante et je dirais, quelle solution pour y remédier?
Vous savez, on a souvent l'habitude de dire que le problème dans le logement, c'est qu'on ne se construit pas assez. Quand on regarde les chiffres de construction de ces dernières années, on voit qu'on construit suffisamment pour répondre à la croissance démographique. Le vrai problème qu'il y a, c'est dans la répartition de cette offre de construction, de cette offre de logement. Il faut savoir qu'on a aujourd'hui près de 8% des logements qui sont totalement vides sur notre territoire, alors que dans le même temps, la Fondation Abbé Pierre nous apprend que nous avons près de 900 000 personnes qui sont privées de logement et 4 millions de personnes qui sont considérées comme étant dans une situation de mal-logement. En fait, si vous voulez, tout simplement, le problème territorial est très simple. On a hyper construit il y a quelques années dans les métropoles. Du coup, c'est là où on a concentré l'activité. Or, depuis 2018, on assiste à une diminution des mises en construction, environ 14% de baisse par rapport aux années précédentes, et à une forte augmentation des constructions dans les zones où il n'y a pas d'emploi. La question qui se pose, est-ce qu'il est utile et pertinent de construire 200 logements, par exemple, dans une zone située à 60 km du premier centre d'activité urbain, alors que justement, on n'aura pas la demande, on n'aura pas les nombres de ménages suffisants pour pouvoir s'y loger? A contrario, est-il normal de ne pas construire dans les centres urbains, qui sont des zones extrêmement tendues, là où les hausses de loyers sont les plus élevées, tout simplement parce qu'on a une demande extrêmement dynamique? Parce que justement, il y a certaines contraintes à la fois législatives et politiques qui s'expriment. Donc, le principal problème du logement, c'est vraiment l'inadéquation entre l'offre, la demande à la fois de logement et d'activité.
Alors, il y a évidemment le corollaire direct, c'est le logement social. Là, c'est l'autre grand parent pauvre des diverses politiques menées jusqu'à présent, non ?
Tout à fait. Il y a 4,6 millions de logements sociaux en France, mais quand on regarde les critères de ciblage, on observe que près de 20 millions de personnes, 20 millions de Français peuvent prétendre à entrer dans un logement social. Le problème du logement social est qu'il ne remplit plus du tout sa mission parce qu'il n'est plus du tout priorisé pour les ménages les plus pauvres. Quelques petits chiffres. On a aujourd'hui 130 000 personnes qui logent dans le logement social qui ont des revenus annuels supérieurs à 60 000 euros, qui en font du coup des personnes qui occupent le premier décile de revenus. A contrario, on a 1,9 million de ménages qui sont très précaires, donc qui appartiennent au premier décile de revenus, qui eux sont obligés de se loger dans le privé tout simplement parce qu'ils n'ont pas accès au logement social, parce qu'ils attendent depuis trop longtemps, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de turnover, il n'y a pas assez de rotation dans le logement social. Pour faire simple, une fois qu'on rentre dans un logement social, on y reste, quelle que soit sa situation familiale, quelle que soit sa situation financière. On doit des fois s'acquitter d'un petit surloyer, mais qui représente une part epsilonesque, qui du coup n'est pas suffisamment désincitative pour enclencher un déménagement. Le logement social aujourd'hui ne permet plus justement aux plus précaires de se loger à coût abordable. Et donc du coup, ces ménages-là, les plus fragilisés, les plus défavorisés, sont obligés de se tourner vers des solutions dans le privé. Et donc du coup, ça ampute encore plus, non seulement leur capacité à se loger, mais aussi leur pouvoir de vivre.
Erwan Tison, dans votre note rédigée donc pour cette opération « Relançons le débat économique pendant l'élection présidentielle et les élections législatives », vous abordez également la question de l'accès à la propriété. Et là, c'est à vos yeux un autre point d'achoppement.
Tout à fait. On a assisté ces dernières années à une hyper-concentration justement des biens locatifs au sein de quelques mains. C'est ce qu'on appelle les maxi-propriétaires. On en compte près d'un million aujourd'hui, donc des ménages qui seraient propriétaires de plus de 5 logements minimum. Il faut savoir que le taux de propriétaires parmi les premiers quartiles, donc vraiment les personnes les plus défavorisées, a été diminué de 8 points depuis 1984. Dans le même temps, le taux de propriétaires parmi les personnes les plus riches a augmenté de 18 points. On remarque en fait tout simplement en France, on devient propriétaire de plus en plus tard et quand on est de plus en plus riche. Donc cette hyperconcentration, malheureusement, elle nuit à la fluidité du marché. Elle oblige certaines catégories sociales à rester locataires et donc du coup à être amputées de 70% de leur budget non pilotable tous les mois pour payer un loyer sans avoir à terme la possibilité et la perspective de devenir propriétaire. Et je le rappelle, devenir propriétaire en France, c'est l'assurance non seulement d'avoir un patrimoine préconstruit, mais aussi l'assurance d'avoir une certaine solvabilité bancaire, l'assurance d'avoir une certaine sécurité à la fois financière, économique, mais aussi sociale. Et donc, du coup, on est en train vraiment d'assister à une très forte dichotomie sur le marché du logement avec d'un côté une hyperconcentration justement de ces biens-là dans quelques mains et de l'autre côté, une dilution, une diminution réelle du taux de propriétaires parmi la classe moyenne.
Voilà donc de nombreuses pistes de réflexion pour le prochain quinquennat et nos prochains dirigeants. Dernière question, Erwan Tison. Le programme est ambitieux, mais mettre un terme à ces dysfonctionnements que vous évoquez dans votre note, est-ce que le gouvernement a aujourd'hui les marges de manœuvre nécessaires sur le plan financier ?
Tout à fait, parce que toutes les mesures qu'en tout cas je préconise ne sont pas forcément des solutions financières et la plupart se font même à coût constant. J'en prends 3 ou 4, si vous permettez rapidement. La première, pour vraiment répondre à ce besoin d'équilibre qu'il peut y avoir entre l'offre et la demande de logement sur le territoire, je pense que l'État a un rôle à jouer, non pas en augmentant l'offre de logement, mais bien en augmentant l'offre d'activité dans les zones justement qui en manquent cruellement. Pour ça, il a un outil à sa disposition, c'est la délocalisation de ses ministères, de ses services et de ses directions en province. Le fait de pouvoir délocaliser certaines de ces entités publiques dans des zones où l'activité est extrêmement rare et extrêmement faible pourrait permettre de fluidifier un petit peu la politique du logement, de désengorger les zones tendues et puis de tendre un petit peu plus ces zones tendues pour vraiment rééquilibrer le marché. Deuxièmement, c'est développer les prêts à taux zéro pour les primo-accédants. Et là, c'est très important, en incluant tous les coûts relatifs à l'acquisition. Donc, c'est-à-dire à la fois les frais de notaire et les différentes taxes afférentes, pour faire simple, mais aussi l'apport personnel qui est un vrai frein justement dans l'accès à la propriété. En l'espace d'une quinzaine d'années, l'effort nécessaire qu'il y a eu pour rentrer dans la propriété est passé de 3 années de revenus d'activité à 5 années de revenus d'activité aujourd'hui. Donc, on a un vrai frein qui s'exprime. Il faut que cet apport-là puisse être inclus dans le prêt à taux zéro pour faciliter l'accès à la propriété. Et ensuite, je dirais, pour corriger les dysfonctionnements sur le marché social, ce qu'il faut vraiment, c'est arrêter de subventionner la pierre et commencer à subventionner les ménages. Pour ça, je propose d'en finir avec la logique du logement social et de passer à une logique de ménage social, où l'État, en fait, attribuerait la même part, la même subvention qu'il attribue aujourd'hui à un logement, mais la verserait directement à un ménage pour lui permettre de se loger dans le parc privé, dans le logement de son choix. Cette aide serait, à contrario des APL qui ont un effet inflationniste lorsqu'elles sont versées au ménage, cette aide serait versée directement au propriétaire ou au bailleur qui, du coup, en fait, la retrancherait du prix proposé sur le marché. Ça permettrait vraiment d'avoir une vraie politique sociale qui puisse non seulement amortir les différents chocs, mais aussi permettre l'accessibilité à des logements de qualité situés dans des zones urbaines ou périurbaines, donc proches des lieux de travail et d'habitation, à coût beaucoup moins.
Merci beaucoup, Erwan Tison. Je rappelle que vous êtes directeur des études de l'Institut Sapiens et auteur de cette note, donc les 5 dysfonctionnements à corriger sur le marché du logement. Pour poursuivre la réflexion autour de cette grande opération, relançons le débat économique. Je renvoie au site lecercledeséconomistes.fr.